Alors, comme annoncé au début de cette midinale, aujourd'hui nous recevons Alex, qui est président de l'association Arc en Corrèze. Alex, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Massivière. Tu es venu donc nous présenter ton association, une association assez neuve, une association qui s'intéresse notamment aux droits et à la vie des LGBTQIA+ de Corrèze, donc à notre micro-échelle, on va dire. Cet acronyme est parfois confus pour certaines personnes, on se trouve parfois dans l'ordre des lettres. Est-ce que tu peux déjà revenir dessus et nous expliquer un peu plus en détail ce que cela signifie ?
Alors oui, tout à fait. Donc LGBTQIA+, c'est les acronymes donc pour le L de lesbienne, le G donc de gay, de personnes du même sexe qui peuvent être attirées. On a le B de bisexuel, B qui donc c'est les deux genres, hein, enfin surtout. Après on a le trans, transgenre ou transsexuel. Le Q de queer, qui n'est pas une case en elle-même, qui regroupe toutes les lettres en fait de LGBTQIA+. Le I de intersexe, pour des personnes qui sont nées avec le deux sexes. Le A de asexuel, asexuel, aromantique et ace, qui ne ressent pas d'attirance sexuelle romantique. Et le plus pour les autres.
Quels sont les autres ? Est-ce qu'il y en a qu'on n'a pas encore correctement identifié ? Ou est-ce qu'il y en a tellement qu'on n'a pas pu mettre toutes les lettres ?
Alors en fait, il y a par exemple le pansexuel qui n'y a pas. Si vous voulez, vous avez tout l'acronyme entière qui est très longue. Mmh. C'est pour ça qu'on met un plus. Souvent, on s'arrête à LGBT+, mmh. On rajoute le Q. Ça dépend des personnes, ça dépend des endroits. Et sinon, sur Internet, vous pouvez regarder le plus long, on va dire, c'est américain. C'est eux qui ont mis le plus long.
Tu as réussi à tout regrouper ?
Tout regrouper, d'accord. Oui, tout à fait. Après, il faut regarder tout à fait sur Internet, parce que là, de tête, je ne le connais pas.
Ouais, mais même toi, il y en a tellement.
C'est assez long quand même, oui, tout à fait.
Super, une sacrée diversité. Alors, et justement, cette diversité, eh bien, c'est l'histoire de ton association, Arc en Corrèze. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la création, sur les différentes missions ?
Alors en fait, si vous voulez, donc la création de Arc en Corrèze s'est faite en 3 fois. C'est mon 3e essai de cette association LGBTQIA+, puisqu'avant on s'appelait Queer et Folle 19, qui n'a pas vu le jour. Parce que c'est en fait, si vous voulez, pour avoir des bénévoles, c'est assez compliqué, dans le sens où on est quand même en Corrèze. Donc on se cache assez, puisqu'il n'y a pas d'association LGBTQIA+, en Corrèze.
Il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas, tout à fait. Le refuge avait vu le jour ici en Corrèze, donc à Brive, qui s'est déplacé maintenant à Limoges, par manque de moyens en Corrèze. Et donc Arc en Corrèze s'est fait par principalement ma volonté de voir quelque chose au jour pour les Corréziens, pour ne pas se sentir seul. Et puis se sentir aussi écouté par rapport à ça. Et moi, mon envie, c'était pourquoi en Corrèze il y a une association LGBT et pourquoi pas en Corrèze.
Exactement. Et aujourd'hui, donc, vous êtes plusieurs au bureau de cette association. Vous avez également des bénévoles et vous commencez justement à vous faire découvrir en Corrèze. Hein. C'est notamment le cas chez nous, Radio Massivière. On a pu vous rencontrer déjà sur les réseaux avant de vous inviter ici au studio. Il y a plusieurs missions, donc j'aimerais qu'on parle d'une mission qui n'est peut-être pas très claire pour tout le monde. C'est la lutte contre ce qu'on appelle le mégenrage. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce que ça signifie et nous expliquer quelles actions vous avez mis en place ou vous comptez mettre en place dans les mois qui viennent ?
Alors oui, tout à fait. Pour commencer, le mégenrage, c'est quand une personne est née femme ou homme, qu'on va donner un prénom, donc à la naissance, hein, la mère donne le prénom à la naissance, et ça va être une personne qui ne se sent pas dans ce genre, en fait, assignée à la naissance, donc homme, femme qu'on connaît à l'heure actuelle, pour les non-binaires par exemple, ça peut être considéré comme du mégenrage. Moi je suis donc né homme par exemple, je me sens plus fille, je préfère qu'on me dise elle, qu'on me dise il. C'est ce qu'on appelle du mégenrage à partir du moment où on va me genrer il. Alors pour certaines personnes déjà ça va être très compliqué.
C'est une véritable souffrance pour ces personnes-là ?
Tout à fait, oui, c'est assez dur à vivre dans le sens où on pas forcément se sentir bien, que ce soit avec les médecins, parce qu'il y a marqué sur la carte d'identité homme-femme. Et si on n'a pas changé cette carte d'identité, souvent c'est plus ou moins compliqué par rapport à ça. Et nous, nos actions, déjà, c'est de faire visibiliser ça, dans le sens où, effectivement, elle est née elle, mais il se sent homme. Et après, ça va être fait par, malheureusement, pour l'instant, c'est que des manifestations pour montrer nos droits, que ça va être... on veut se sentir écouté, on veut avoir le choix aussi de choisir comment se genrer, comment se prénommer, et que ça soit plus simple là-dessus.
Alors moi j'ai une question, quand on ne sait pas par exemple, une personne qui ne saurait pas comment s'adresser à une autre personne, comment est-ce qu'on peut réagir sans être maladroit, sans vouloir, sans faire du mal, sans le vouloir?
Bien sûr, alors déjà on peut lui commencer par juste dire bonjour.
Oui, exactement.
Voilà, c'est ça, tout à fait, parce qu'on nous a toujours appris de dire bonjour madame, bonjour monsieur, par forme de politesse, entre guillemets, alors que pas du tout, parce que justement, c'est ce qu'on appelle du mégenrage à ce moment-là. Si la personne est il et qu'elle représente plus ce qu'on dit de la société femme, c'est très compliqué. Donc déjà, on peut commencer par juste dire bonjour quand on croise quelqu'un. Et c'est pas méchant, et au contraire, je vous invite à poser la question directement à la personne. Si vous n'êtes pas sûr de pas vous tromper, lui demander carrément est-ce que c'est il, est-ce que c'est elle, comment je vous genre, comment je genre la personne en face de moi, est-ce que je lui pose la question, comment tu veux que je te genre? Ben oui, elle, au neutre.
Ça paraît le plus évident, la façon la plus évidente de réagir. L'une de vos missions, c'est la défense et peut-être le militantisme, finalement, pour les droits des LGBTQIA+. Comment est-ce que vous faites? Quelles actions là, vous avez mis en place, vous comptez mettre en place?
Alors, donc c'est tout le début, donc le défense des droits. Pour l'instant, on a fait notre premier café queer le 24. C'était un café queer qui était pour moi une grande étonnation, puisqu'on était 23. Et c'est un moment convivial où tout le monde pouvait venir, même les hétéros, ceux qui sont alliés. Tant qu'il y avait de la tolérance et pas d'homophobie, pas de racisme, pas de grossophobie, etc., etc. Et ensuite, on veut mettre en place des soutiens, de l'écoute, des conseils santé, que ce soit pour la suite donc, des personnes trans, qui je vais voir, où je peux aller voir, qui contacter. Et ensuite, ça va être... Donc des moments aussi de manifestation, comme on va être présent à la Marche des Fiertés à Périgueux, Limoges, c'est en attente, puisque j'ai réunion en mars avec eux. Après, j'ai pris contact avec la Maison des Ados, afin de voir qu'est-ce que je peux leur apporter de plus, avec le planning familial aussi, donc de la Corrèze. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Est-ce qu'il y a éventuellement un partenariat qui peut se faire? Et c'est beaucoup, beaucoup de visibilité, que ça soit dans les médiathèques, que ça soit à l'école, au lycée, au collège, puisque c'est à l'âge où on commence à se poser des questions. Donc au collège, on commence à voir la sexualité. Pourquoi on verrait pas les LGBTQIA+ comme paraît à certains, c'est pas une propagande, au contraire, c'est des gens qui se cherchent, qui sont des fois en détresse. Voilà.
Alors justement, tu parles d'intervention au sein d'associations, au sein d'institutions comme l'école notamment. Est-ce que vous prévoyez donc des choses à mettre en place dans l'accompagnement vraiment des familles ou tout simplement d'une personne qui aurait besoin de parler, de rencontrer d'autres personnes de sa communauté, d'autres personnes qui ont pu passer par le même cheminement? Parce qu'on peut imaginer ce qui se passe psychologiquement lorsqu'une une personne s'intéresse plus en détail à la question du genre et qu'elle ne se reconnaît pas dans celui qui lui a été attitré à sa naissance. Est-ce que cette personne-là peut, par exemple, vous contacter, trouver quelqu'un dans les environs pour discuter?
Alors oui, tout à fait. Donc moi, je suis assez mobile puisque j'ai une voiture. Mais si jamais on a le siège social au CCS à Tulle à l'heure actuelle... Et donc il y a possibilité de louer une salle pour moi et de pouvoir accueillir des familles, des personnes, des mineurs, des majeurs, tout en anonymat bien sûr. et de pouvoir les conseiller au mieux, de les, si vraiment j'ai pas la question, de me renseigner ou même de les rediriger vers...
Oui, de réorienter.
Tout à fait, oui, oui. Ou ça peut aller voir un psychiatre, psychologue, si vraiment la personne se sent d'en parler. Je sais que c'est plus facile de parler à des personnes d'une association LGBT que des fois forcément aller voir un psychologue qui va avoir la formation, mais comme on l'a vécu, c'est aussi en fait, on va parler de notre vécu sans en parler dans les grosses lignes, mais de dire bah, écoute, je comprends ce que tu vis puisque j'ai vécu ça aussi, donc je sais que personnellement, je sais qui je suis allé voir, je vais pouvoir le renseigner de va voir cette personne. J'ai telles informations sur ça, je vais pouvoir te renseigner là-dessus parce que tu as besoin là-dessus. Et ensuite, je conseille donc s'ils veulent d'aller voir sur le site internet, sur Facebook, Instagram, de Arc en Corrèze.
Arc en Corrèze, tout simplement, sur les réseaux.
Tout à fait, oui.
Donc, je le rappelle aux auditeurs et auditrices, vous pourrez réécouter cette interview sur notre site internet www.radiovassivière.com et bien sûr, en légende, on vous mettra donc le compte Facebook, le compte Instagram de l'association. Alors, Alex, il y a une question qui est venue lorsqu'on a préparé cette interview, une question de mon assistante, de Zani. Si tu veux bien, je vais lui demander de te la poser.
Alors, du coup, moi, j'ai une petite question, c'est comment t'as su que t'étais, que t'étais pas...
pas hétéro.
Hétéro, voilà.
Alors, il faut savoir déjà que, pour commencer, ça dépend des personnes. Tout le monde se trouve plus ou moins jeune ou plus ou moins vieux par rapport à son genre ou sa sexualité. Moi, personnellement, ma sexualité, je l'ai trouvée en essayant. Et ensuite, j'étais à un âge où on se commençait à se poser des questions, donc au collège. Savoir, j'aime les filles, mais j'aime les gars. Est-ce que c'est normal parce que je suis un gars et normalement, il faut aimer les filles, puisque la société dit ça.
Il y a encore beaucoup de pression sociale.
Oui, tout à fait, ouais. Oui. Dans le sens où c'est pas mal, plus ou moins malheureusement, de l'éducation, de la société. La société dit que, donc il faut faire comme dit la société. Mmh. C'est ce qu'on veut essayer de casser, justement, de cette société, en fait, qui dit que une femme doit faire ça, une femme doit aimer ça, un gars doit faire ça. Et donc moi, j'ai su, au collège, j'ai commencé à me poser cette question, savoir, j'aime les filles, mais j'aime les gars. Et c'est à partir du lycée où j'ai découvert en fait LGBTQIA+, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que c'était, et c'est là où j'ai découvert en fait que j'étais bisexuel, dans le sens où donc je suis attiré par les deux sexes. Pour mon côté plus trans, je l'ai su un peu plus tard, 2 ans après, où en fait ça me dérangeait pas comme genre elle. Je me sens mal d'aller torse nu à la piscine, d'aller torse nu à la plage. Donc c'est là aussi où on commence à se poser des questions, dans le sens où je me sens mal dans mon corps. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est parce que je suis... la société dit que je suis trop gros? Est-ce que c'est parce que je suis trop mince? Alors que pas du tout, c'était vraiment je peux pas me regarder dans un miroir torse nu, ou alors pas longtemps. Et ça, c'est vraiment des personnes trans peuvent le sentir en tout cas.
C'est quelque chose qui peut alerter, par exemple, si des auditeurs et auditrices se reconnaissent dans cette situation, tu les inviterais à prendre contact peut-être avec Arc en Corrèze pour en discuter, pas rester dans cette souffrance, puisque j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez dur à vivre.
C'est assez dur à vivre, et effectivement, s'ils commencent à se poser la question, c'est peut-être aussi bien de se retourner voir quelqu'un, une association, quelque chose comme ça, qui peut confirmer ou non son point de vue là-dessus. Et c'est aussi des questions que moi je me permets de poser là-dessus. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu te sens de sortir en maillot de bain? Est-ce que tu te sens, et pourquoi tu te sens comme ça? Parce qu'il y a aussi la transidentité, mais il y a aussi le jugement que ont les gens, donc ça peut, en fait, si vous voulez, c'est deux symptômes où même s'il y a du jugement sur le corps, la personne va pas forcément se sentir bien dans son corps. Et ce qui est légitime, hein. Mais je les invite, même si c'est plus dans le côté jugement, à venir nous voir, peu importe l'association.
On ne vient jamais pour rien, finalement.
Tout à fait, oui, on vient jamais pour rien. On vient toujours dans l'optique d'avoir des informations, de sentir mieux, et aussi de pouvoir aller voir quelqu'un d'autre, un psychologue, un psychiatre. Peut-être c'est aussi instructif, même si effectivement si c'est pas LGBT, enfin même si tu te sens pas trans, ben c'est peut-être que à l'intérieur tu as quelque chose qui te fait mal. Et donc moi je peux continuer à en parler parce que je suis très ouvert à la discussion, que ça soit peu importe la discrimination. Et si vraiment tu le sens pas de parler là-dessus, je t'invite à aller voir un psychologue, parce que c'est, faut pas rester dans une souffrance où après on fait des choses qu'on regrette. Je parle de mutilation par exemple. Voilà, par exemple. Et après il y en a qui jeunes pensent aussi au suicide. C'est pour ça que j'invite fortement à aller voir quelqu'un. En tout cas, une association LGBTQIA+, c'est peut-être plus facile.
Alors, si par exemple un auditeur ou une auditrice souhaite te contacter, comment ils peuvent faire tout de suite ? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone, une permanence finalement ? Ou sinon, bah, comme on l'a dit, passer par les réseaux ?
Alors, voilà, moi tout à fait. On peut me joindre via les réseaux sociaux. J'ai un numéro de téléphone qui n'est pas 24 heures sur 24. Mais je peux répondre dès que j'ai la possibilité.
Alors, est-ce pas, que tu peux peut-être oui, le tout donner à fait. Si ça te dérange pas, sinon
tout à fait,
aussi
oui,
donner
oui.
Une adresse mail.
C'est donc moi c'est le 07 88 99 63 62 et donc ce numéro de téléphone c'est le mien et il est disponible aux personnes qui peuvent se sentir mal. Vous pouvez me joindre là-dessus, me laisser un message. C'est mieux si des fois je connais pas le numéro, je réponds, mais si je suis occupé, j'évite d'y répondre. Et sinon, il y a l'adresse mail, donc arc.an.corrèze@gmail.com, que vous pouvez aussi tout à fait envoyer un mail là-dessus pour nous joindre.
Merci Alex. Une dernière question avant de finir cette interview et de jouer au jeu du dictionnaire. J'aimerais qu'on parle des ateliers. Vous avez une super programmation jusqu'en juin sur le territoire corrézien. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour voilà, de ce que vous proposez ou du moins nous dire comment retrouver ce programme ?
Alors, si vous voulez, ce programme jusqu'en juin, c'est la communauté dégenrée où c'est plusieurs associations qui se mettent en lien pour faire un programme. Donc on a l'association Encore, Centralise Guy et d'autres que j'oublie sûrement. Et en fait, si vous voulez, par rapport à ce programme, c'est un programme donc queer féministe qui va mettre en lumière comment réagir face à la société. Par exemple, pour le 8 mars, où il y a un atelier fait par le Planning Familial 19 à la médiathèque de Tulle. Donc du côté féministe, droit des femmes, etc. Personnellement, à part tous les cafés queer tous les mois, pour l'instant, nous, on n'y est pas dessus, puisqu'on n'avait pas forcément... C'est tout nouveau, donc on n'avait pas forcément accès à cette liste.
Oui, ce sont les partenaires avec qui vous travaillez,
oui,
du
oui,
moins.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que on est ouvert aussi à le féminisme, tout ce qui va... Règle en général, discrimination... que ce soit sexisme, etc., je ne vais pas repasser dessus, mais on se focalise surtout sur LGBTQIA+. Le 8 mars, par exemple, si on devait faire une action, ça serait plus du côté lesbienne, trans, puisque c'est consacré principalement aux femmes, donc lesbienne et trans et non-binaire, puisqu'une personne non-binaire peut se sentir du sexisme autour de cette personne.
Et donc pour le prochain Café Queer, est-ce que tu as déjà une date ?
Alors j'ai pas la date exacte, mais si vous voulez c'est un samedi, c'est le dernier samedi de mars qui se fera à Brive, juste avant le Gender is Over qui se passe aussi à Brive du 29 au 31.
Très bien, écoute, merci Alex en tout cas d'avoir été avec nous sur Radio Massivia. On se quitte pas tout de suite, on va jouer ensemble au jeu du dictionnaire.